Daniel, salut, Jamel d'Argenteuil. Si je t'écoute à la radio à 15h, et en plus tu t'appelles pour répondeur, est-ce que je risque d'être fiché sur Edwige? Rappelle-moi vite, j'ai peur.
Oui, bonjour Daniel. Pierre, une petite question concernant le dossier Edwige. Alors je sais qu'on peut être fiché dès l'âge de 13 ans, si on est considéré comme dangereux, si on a une activité sociale, politique ou religieuse. Alors moi, personnellement, à 15 ans, j'étais délégué de ma classe. Suis-je fiché? D'autant plus que j'ai été enfant de cœur et que en plus je laisse des messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Alors, moi j'aimerais bien savoir si je vais être fiché par Mademoiselle Edwige. Ciao.
Le ciel est bleu, le soleil brille, c'est la rentrée et nous nous retrouvons ce lundi 8 septembre à 20h au café L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny dans le Vieux-Lille. Voilà, venez nombreux, à tout à l'heure.
Petite pensée informative. La colistière de McCain, fondamentaliste chrétienne, luttant contre l'avortement, entre autres, ne pas tuer l'enfant, eh bien, elle prône et elle annonce en Irak la victoire de la démocratie grâce à la politique de Bush. Guerre qui a tué des centaines d'enfants au nom de la démocratie à l'états-unienne. Incroyable, non?
Oui, bonjour, je m'appelle Max, enfin, me prénomme Max. Je viens à l'instant d'entendre l'émission sur le créationnisme. Dans un premier temps, j'étais plié de rire, mais alors après, quand j'ai entendu les interviews, je suis resté estomaqué et j'y croyais pas. Alors, moi je trouve ça sinon préoccupant, mais inquiétant, d'autant plus inquiétant que cela, que le créationnisme fait des choux gras dans ce qui est supposé être une des plus grandes démocraties du monde. Alors, qui joue les gendarmes du monde? Alors, moi, il y a de quoi être inquiet. C'est stupéfiant de penser qu'au 21e siècle, il y ait des gens qui croient que la Terre a été, ils ont édifié, il y a 6000 ans. Bon, je reste sans voix. Voilà. Je ne peux pas avoir d'autres réactions pour le moment. Alors, encore une fois, je me prénomme Max. Bonsoir.
Bonjour, Vincent de Flayosque dans le Var, enseignant et sarkozyste depuis 1982. Ma fille, 7 ans, n'arrête pas de revendiquer pour le droit de regarder la télévision, utiliser l'ordinateur, manger des bonbons, etc. En tant qu'honnête citoyen soucieux du bon fonctionnement de l'État et de la pérennité des institutions, je me demande s'il ne serait pas judicieux de l'inscrire dans le fichier Edwige.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Amis fichés, tous fichés, bonjour, c'est là-bas si j'y suis, merci pour vos messages, chers auditeurs modestes et géniaux. 124 127 signatures contre Edwige pour obtenir l'abandon du fichier Edwige. Il n'est pas du tout sûr que ce soit abandonné. Nous revoilà avec les problèmes de surveillance, être surveillé, le sentiment d'être surveillé. On n'est pas forcément surveillé, mais on a le sentiment d'être surveillé et qui surveille, ce qui nous surveille, etc., etc. Ces questions à nouveau se posent. On va revenir sur des sujets qu'on vous avait présentés sur ce thème qui s'intitulait « Big Brother is watching you », mais le sous-titre était « Dieu te voit même quand tu es au cabinet ».« Dieu te voit même quand tu es au cabinet », c'est une phrase signée de ma chère maman. Ma maman nous disait ça à mes frères, sœurs et moi-même. « Dieu te voit même quand tu es au cabinet ». Ma mère était bien plus forte qu'Edwige. Mais on va voir quand même que y a quelque chose là de très très préoccupant. Tous fichés donc aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basilis ou au 01 56 40 37 37. Mais après ce petit paquet de messages que voici, cette petite ce florilège de vos messages, on ira avec Antoine faire Antoine Chao faire un tour chez Guignol, en passant chez Edwige aussi, vous allez voir.
Bonjour à toute l'équipe. Malgré le manque de publicité, votre émission était attendue avec impatience et nous souhaitons encore l'écouter longtemps. Alors, je ne comprends pas mais peut-être ai-je perdu le sens des valeurs. La sanction prise à l'encontre du préfet de Corse suite à l'intrusion passive dans la propriété Clavier, alors que dans le même temps étaient tués 10 Français en Afghanistan, le général commandant la région reconnaissant avoir péché par excès de confiance. Qu'en pense M. Clavier à ce sujet? Au revoir et bon courage pour la reprise. Hein, au revoir.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les MG, c'est Jérôme du Morbihan. Juste une petite réflexion, je viens d'entendre le colonel du 8e RPIMA de Castres, le fameux, qui part aujourd'hui même en Afghanistan. Dans le journal du JT de l'édition spéciale sur Canal+, ce midi, qui dit, je cite, « La guerre en Afghanistan est du même titre que la guerre en Algérie. C'est une guerre qui a été gagnée sur le terrain, perdue politiquement. » On applique les mêmes méthodes, les fondamentaux. Je sais pas, moi ça me laisse sans voix quand je vois ce que la France a fait en Algérie, que après ça on a été mettre notre savoir-faire de torture et de tout ce qui et de toutes brimades qui ont été faites en Algérie et bien pire au service des dictatures sud-américaines, des États-Unis et de tous les plus grands dictateurs du monde. Et ben voilà, un colonel de l'armée française qui part en Afghanistan, qui a au moins la franchise de dire quelque chose de clair. Que l'armée française applique en Afghanistan à l'heure actuelle les mêmes méthodes qu'en Algérie, entre nous soit dit, les fondamentaux. Voilà, bon courage à tous, il faut continuer, résistons, et oubliez pas, Ciné Hebdo le 10 septembre. Allez, salut.
Bonjour, chers AMG, Béatrice Repère, du 19e à Paris. Je vous appelle pour vous dire que la rentrée s'est faite et quelle rentrée. Alors, retrouvons-nous comme tous les mois, le 2e et le 4e samedi du mois. Le premier repère sera donc samedi 13 prochain, 13 septembre, de 17h à 19h. Au repère donc de là-bas si j'y suis, aux deux bateaux, 44 bis, quai de Loire, métro Jaurès ou Lomière, donc de 17h à 19h, samedi 13. À bientôt.
Salut Daniel, donc j'ai bien écouté le début de ton émission sur le créationnisme et je trouve ça assez singulier parce que il y a un ton dans cette émission qui semble s'étonner de ce que ces gens croient. Mais nous-mêmes, nous croyons toujours les mêmes fariboles. On croit bien aussi au Christ, qui pourtant, semble-t-il, n'est bien qu'un mythe, ou la Vierge Marie, ou Abraham, etc. Alors que la bonne question, ce serait de se demander, mais bon, que pense-t-on dans les autres religions, dans l'hindouisme, dans les religions des nordiques, qui parlaient du walala, etc., dans les religions grecques. Toutes ces croyances, c'est bien joli, mais effectivement, du temps de Galilée, le pape disait, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et c'est la religion qui vous le dit. On se trouve exactement dans le même cas qu'en 1633. Rappelons que quand même, Galilée a été réhabilité en 1992, c'est-à-dire 3 siècles après. Merci, au revoir.
Donc j'ai écouté l'émission d'aujourd'hui sur les créationnistes, mais si j'étais le diable, c'est ce genre de personnes que je fabriquerais, des gens absolument sûrs, qui n'ont aucun doute sur ce qu'ils pensent, sur leurs idées. C'est les pires humains qui puissent exister, c'est les gens sur deux et de leur idéologie. Salut, c'est Eric à Roquebrune, Cap-Martin.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Il n'y a pas que les créationnistes qui inquiètent Antoine Chao, il y a aussi Guignol. Antoine Chao emmène ses enfants au Guignol et il est pris d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que il est cultivé ce garçon-là et il sait qu'au 19e siècle, lorsque Guignol se manifestait au temps de Napoléon III, eh bien, Guignol fut interdit. Guignol était un personnage subversif. Et ceux qui assistaient aux représentations de Guignol étaient parfois poursuivis et est menacé d'enfermement. C'est allé jusque-là. Alors, en se promenant gentiment avec ses petits-enfants sur les Champs-Élysées, les emmenant à Guignol, Antoine Chao nous a rapporté les images que voici.
Halt ! Hop ! Monsieur Guignol ! Hop ! Je ne fais pas. Lors de la loi, je vous arrête. Et bon, le bâton, je vous casse la tête. Il a la tête bien dure. Mais il est courageux. À la police, il est bien fort parce qu'il est brave. Il n'a pas peur.
Donc nous sommes dans un quartier central, pas réputé à gauche, les Champs-Élysées, pour ici une manifestation en ce moment de riverains qui manifestent suite à la séance de Guignol. Donc tous les parents qui ont emmené leurs enfants ici voir le spectacle de Guignol auraient été fichés sur le nouveau fichier Edwige. J'ai une petite question à poser aux guignolistes.
Oui.
Est-ce que vous prenez les gens qui sont susceptibles d'être fichés dans le fichier Edwige après avoir assisté à votre spectacle?
Je ne trie pas les gens.
Non, mais est-ce que vous considérez qu'un spectacle de Guignol peut être considéré comme subversif et donc pourrait entraîner un fichage du public? Vous, ça ne vous pose pas un problème de pouvoir être fiché sur Edwige?
Je ne connais pas assez bien les parce dispositions.
Parce que c'est un décret qui caresse plutôt dans le sens du képi, quoi. Donc là, on sait que Guignol a plutôt tendance à taper sur les gendarmes. Donc, et pour vos enfants, ça, vous ne pensez pas que ça peut nuire à leur carrière?
D'aller voir Guignol, non, je pense pas.
Non, mais d'être fiché définitivement.
10-5 ans.
Il y a eu des rumeurs, il y a eu des manifestations ce matin. Des parents ont été fichés dans Edwige suite à avoir emmené leurs enfants ici au théâtre de Guignol. Vous êtes au courant?
Non. J'ai moi-même passé un concours de magistrat auquel j'étais admissible et je me suis rendu compte 5 ans plus tard que je n'avais pas été pris parce que j'étais dans un fichier stick. Au système de traitement des infractions constatées. Donc je vois très bien ce que...
Parce que vous étiez venu à un spectacle de Guignol?
Non, absolument pas. Ah non. À mon avis, aujourd'hui, le vrai problème du fichier Edwige, c'est pas tant qu'il existe et son contenu, même s'il est assez scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun contrôle sur qui consulte le fichier. Et quand on est dans ce fichier, on n'est pas informé qu'on est dedans et on n'est pas informé qui consulte l'affiche au moment où on est dedans. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas que les policiers qui consultent les fichiers, mais aussi des gens qui payent les policiers pour pouvoir les consulter. Donc, il y a aussi des personnes privées, et il y a de plus en plus d'enquêteurs privés qui accèdent à ce genre de fichiers. Aujourd'hui, toute entreprise qui veut se renseigner sur ces cadres, etc., va en fait avoir accès aux fichiers policiers en payant des policiers. On le sait. On doit aussi s'entourer de vraies protections, comme contrôler qui accède à ces fichiers, et informer systématiquement les personnes qui sont fichées de l'existence de cette fiche et de qui accède aux fiches. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, malheureusement, le débat ne porte pas du tout sur cette question du contrôle. Contrôler un fichier qui contrôle. Ça, c'est très important. Voilà.
Donc, bientôt, des castelettes Guignol clandestins, quoi. Voilà, c'est un peu la suite logique, non?
Voilà,
de cette politique sécuritaire.
Tout à fait. En plus, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer, on sait qu'on a fait énormément d'erreurs judiciaires très graves. Si aujourd'hui on vous dit, ah mais un tel a des penchants homosexuels, il se trouve qu'il y a 10 ans, il a été noté dans un fichier stick, hein, c'est-à-dire pas condamné pour attentat à la pudeur. Si un magistrat a ça entre les mains, évidemment, il va tout de suite soupçonner la personne d'avoir commis certains faits. Mais c'est évident. C'est évident, c'est extrêmement dangereux.
Et donc pour ces réunions là subversives là où assistent des enfants accompagnés par la parent, est-ce qu'on peut estimer que les parents sont complices là du guignoliste?
Vraiment complices. Donc en plus, pour apprendre à contester l'autorité. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qu'on s'aperçoit dans le théâtre de Guignol, les enfants s'expriment. C'est un théâtre démocratique.
Alors on va demander aux guignolistes. Oui. Alors vous pensez qu'aujourd'hui un spectacle comme celui-ci peut être en danger et pourra susciter un nouveau décret, une nouvelle censure après celle de Napoléon III en 1851?
Le petit, oui, le petit Napoléon, aucun risque. Guignol fut et sera. J'ai entendu ce que vous parliez tout à l'heure de loin, parce que j'étais en train de ranger les bancs, et je me suis aperçu que le seul personnage susceptible ici, c'est le gendarme, et c'est le seul aussi qu'à un moment donné, lorsqu'il est rosé par le fils de Guignol, revient sous les applaudissements, il fait le cabotin, et nous savons qu'il n'est pas le seul en ce moment. Riez, riez.
Alors est-ce qu'on a le droit de rire de l'autorité aujourd'hui? Est-ce qu'on ne tombe pas sous le coup de la loi aujourd'hui? Ah, est-ce que Guignol ne retombe pas à nouveau sous le coup de la loi, mais comme en 1851?
Mais Guignol, c'est de la matière inerte, donc il ne peut être vivant qu'avec les autres. Français, encore un effort pour être républicain.
La marionnette en elle-même est née après la Révolution, hein, après la révolte des Canuts.
Irrévérent, Guignol, il l'est toujours. C'est clair.
Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui, après s'être attaqué à l'héritage de mai 68, que le gouvernement s'attaque à l'héritage de Guignol?
Partout, les gens s'écravent.
Et d'ailleurs, c'était le Guignol, celui qui se lève quand les autres se couchent.
Halt ! Hop ! Là, monsieur Guignol ! Hop ! Je vous fais peur. Au nom de la loi, je vous arrête. Le bord de bateau, je vous casse la tête. Au revoir, monsieur le commissaire. Aïe. C'est-à-dire, vous êtes bien gentil. Vous venez avec nous ? Allez, on y va. Si Guignol, s'il vous plaît, on peut lui faire un grand bravo pour le récompenser.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Alliot-Marie annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
J'arrive au Portillon, je sors mon passe Navigo, la RATP, et tous mes voyages sont enregistrés et tracés.
Alors, le prétexte officiel, c'est mieux servir le client. C'est peut-être en partie vrai, mais ça sert aussi à autre chose. Ça peut servir à retracer ce que j'ai fait dans une journée ou dans une semaine à des fins d'enquête policière, justifiée ou non.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si j'y suis avec Sylvain Savolainen. Dieu te regarde même quand t'es au cabinet.
Bonjour. J'aimerais acheter un petit objet. Est-ce que je peux voir ce que vous avez en rayon?
Mais bien sûr, monsieur.
Qu'est-ce que c'est ça?
Un sextoys. C'est un objet avec qui marche avec une pile. Et celui-ci, il a des petits piquants comme ça, mais très très doux, qui font juste des sensations dans le vagin. Et c'est très agréable.
Et
vous avez un petit peu gros, vous avez des plus petits, vous avez des recourbés qui vont chercher le point G. Voilà, et puis vous avez des coquerines. Les coquerines vibrants ou les coquerines comme ça qui servent juste la base du sexe ou le sexe et les testicules.
Alors ça c'est...
Ça retient un petit peu l'érection et puis ça vibre sur le clitoris et c'est très agréable.
Par contre, il y a des piles.
Oui, il y a des piles.
Je préférais quelque chose de mécanique.
Alors mécanique, ça ce sont des cravaches ou des fouets en cuir. Les vrais avec des petits... Un petit embout comme ça qui frappe bien sur les fesses, éventuellement. Vous voulez l'essayer?
C'est moi qui l'essaye sur vous, c'est vous qui l'essayez sur moi?
Je l'essaye sur vous.
Bon, bah, pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur?
Par carte.
Alors, PNZ75, conformément à vos instructions, un lever du dispositif pour la Bravo 6. Message reçu?
Ah oui, reporter à la base où j'y suis, c'est pas une sinécure. Hein. C'est pas une sinécure, il faut être très très malin pour être reporter à la base où j'y suis. Et qu'est-ce qu'il vient de faire, notre reporter de la base où j'y suis, dans ce lieu de perdition? Il vient de payer avec sa carte. Et ça, il va s'en rappeler. Et il va pas être le seul à s'en rappeler. Tout le monde va s'en rappeler. Nous laissons des traces. Nous sommes de plus en plus surveillés, scrutés, fichés. Et nous vivons dans un monde de plus en plus transparent. Mais c'est une transparence, vous savez, comme les poubelles transparentes qu'on a mis un peu partout pour voir ce qu'il y a dans les poubelles. Transparente, c'est cette transparence des open space, bureaux, Autrefois, on était de bureau, on était un petit peu enfermé. Enfin, au moins, on avait un peu d'intimité. On pouvait. C'est fini. On entend les conversations des uns et des autres. Nous sommes transparents. Si vous avez un tout petit peu de notoriété publique, il y a sur Internet des tas de renseignements sur vous qui ne s'oublient pas. Nous sommes transparents et nous allons vers une société hypermnésique. Le contraire d'amnésie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oubli. Il n'y aura bientôt plus d'oubli. Tout reste en fiche, tout est marqué, tout est repéré. Et nous l'ignorons plus ou moins. Nous l'ignorons plus ou moins et le moins, c'est la suspicion. Nous sommes suspects. Il y a des caméras qui nous filment, qui nous observent. Il y a cet œil, en effet, imaginé à l'époque, imaginé par George Orwell, qui est devenu bel et bien une réalité. Dieu nous regarde même lorsque nous sommes au cabinet.
Le métro alerte une diligence. Des affiches indiquent un numéro vert pour donner son corps à la science. Dans un ascenseur sans bouton, la France d'en bas remonte à la surface. Vomis par le cul sous la pression des nerfs. Les caméras de surveillance sourient tout en enregistrant la fin du film. Les rêves des femmes enceintes sont sur écoute. Leurs bébés naissent avec toute leur dent. On en fera des banquiers qui vous feront des cuistons.
Vous endormez pas sur vos barbelés. Vos menottes ne sont pas assez
dans chaque coin, des fers à repasser aux pieds. On me suit à la trace, depuis que les satellites localisent les fous rires. Va falloir imiter les zombies, pour pas se faire bouffer. Attirer la sympathie des jurés, pour être innocenté. Les procès sont à guichet fermé, les yeux divers pleins de la folie. Dehors, c'est tellement laid qu'un jour on pendra les architectes à des grues. Mes proches en plaques, noyés par balles. On applaudit à la fin du spectacle pour se féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout d'être resté.
Bon, bah pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur ?
Par carte.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
Carte-centre, mon nom est Sacré.
Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle, j'ai un petit souci, un petit service à vous demander. Oui. J'ai fait un achat récemment avec ma carte de crédit.
Oui.
Est-ce que vous en avez trace?
Je veux juste contrôler, monsieur. Je peux avoir le numéro de la carte?
Oui, c'est le 01
01
01
01
01
01
01
01
78.
78, merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors oui.
Voilà, bon, j'ai fait un achat le 29. Est-ce que vous en avez une trace?
Mia culpa sex shop.
Ah voilà, c'est donc marqué le nom, le type du magasin.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme nom ou trace du magasin?
Mia culpa.
Et c'est tout ce qui apparaît ou?
Non, sex shop aussi.
Ah bah voilà, c'est justement là mon petit problème.
Oui.
Si vous voulez, je n'aimerais pas que ça figure sur mon relevé de carte. Ça c'est possible?
Attendez, je vais te contrôler si possible de l'effacer.
Parce que bon, je vous explique, j'ai fait donc ce petit achat. Je peux vous le dire si vous ne le répétez pas. Hein, c'est une cravache.
Et c'est pour mon frère, c'est pas pour moi, parce que lui fait du cheval. Et si vous voulez, j'aimerais pas que mon amie, puisque elle regarde mes factures de carte et mes emails, elle puisse mal l'interpréter. Donc c'est pour ça que je vous demande si c'est possible de l'effacer, quoi.
Malheureusement, pas de mon part, mais je vois maintenant toutes les choses là, ou bien les transactions ici, c'est mea culpa sex shop, avec sex shop.
Ah.
C'est pas possible de l'effacer, c'est exactement la description, nous recevrons, c'est pas quelque chose de notre part, c'est le sex shop qui nous envoie comme ça. Oui, non, malheureusement, c'est pas possible de l'effacer. Et si c'est pour votre frère, monsieur, je pense que elle va comprendre.
Ouais, vous savez, des fois, c'est des longues discussions. Hein.
Alors,
si je paye ma facture tout de suite, est-ce que, à la rigueur, le mois prochain, vous pouvez effacer la trace de l'achat?
Malheureusement pas. Non, ça doit être sur la facture. Vous savez, par exemple, tous les montants lesquels vous payez, on doit les avoir sur un papier, chez vous et chez nous.
Mmh.
Même une fois envoyé, mais vous pouvez détruire cette facture comme vous l'avez.
D'accord. C'est ce que je vais essayer de faire. Et par contre, alors de votre côté, chez vous, combien de temps ça va rester enregistré?
Pour toujours, cet achat, pour la facture,
ouais.
Toujours.
Oui, c'est long ça. Donc vous pouvez
mais,
pas.
Non, mais votre. Je pense que votre amie a pas la... elle va pas téléphoner chez nous pour demander. Hein.
Bah, j'espère pas, hein. Vous la connaissez
non,
pas.
Non, mais elle a même pas le droit.
D'accord. Donc...
Non, c'est votre carte à vous. Hein.
Bon, alors sur ce coup-là, bon, vous m'aidez que moyennement, quoi. Alors, j'ai une autre question. Là, oui. je suis à Paris. J'ai utilisé ma carte aussi. Je sais pas si vous le voyez dans mes achats.
À Paris.
Oui. Depuis que je suis là, vous avez vu si je l'ai utilisé ici à Paris?
CNCF, il y a ici des restaurants, oui.
J'ai entendu au début que la conversation était enregistrée.
Oui.
Ça au moins, c'est possible de pas garder la conversation parce que c'est un peu gênant comme conversation, évidemment, quoi. Et je préférerais pas que ça, c'est possible, on peut s'occuper de ça?
Malheureusement pas, mais c'est ça, voilà. Ça doit être enregistré. Même le montant, la facture et la conversation.
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui pourrait écouter la conversation?
Oui.
Aïe, bon.
Oui.
Ok. Et dernière question éventuellement.
Mais c'est pas vraiment, par exemple, si mon supérieur écoute actuellement cette conversation.
C'est possible?
Ça, c'est possible.
Aïe.
Ou bien, s'il y a quelque chose et on doit écouter de nouveau après une année, deux années, on doit écouter la conversation, on peut le faire.
Donc, vous gardez éventuellement plus d'un an ou deux la conversation?
Pour toujours.
Oula. D'accord.
Ça reste encore pour 10 ans d'années, mais ça fait rien, mais c'est ça. Ça reste, je pense que ça va pas passer que quelqu'un, ou bien, ni votre ami, ni quelqu'un d'autre va écouter cette conversation. C'est 1%, ni même pas 1% de chance.
D'accord. Et si à la rigueur, moi, je voulais avoir une copie de l'enregistrement, ça c'est possible? Vous pouvez me l'envoyer?
De cette conversation?
Ouais.
Non, malheureusement, c'est pas.
Bon.
Ça reste juste pour nous.
Voilà, ça reste juste pour nous. Et voilà, on peut pas, ça y est, c'est à tout jamais, dans mon enfance, quand ma maman me disait, Dieu te regarde même quand tu vas au cabinet, il y avait quand même une chose, c'est que on pouvait aller se confesser, si on avait fait quelque chose comme ce que vient de faire notre reporter, Sylvain, qui a acheté une cravache, enfin pour son frère, d'accord, mais enfin bon, d'aller dans un sex shop qui s'appelle Mea Culpa, bon, on pouvait aller le samedi se confesser, puis hop, il y avait la bénédiction, on avait peut-être une petite pénitence, et c'était terminé, mais pas avec Visa. Visa, c'est à vie. C'est pendant 12 générations, les descendants de Sylvain sauront que l'ancêtre est allé un jour acheter une cravache dans un sex shop qui s'appelle Mea Culpa. Et ouais, c'est quand même assez. Ça, on rigole, mais ça fout un petit peu les chocottes. On est de plus en plus surveillé et on va vous le prouver. Pourquoi donc? Eh ben, c'est pour notre sécurité, pour notre bien. Nous sommes dans un monde très dangereux. Chacun de nous est une cible visée. Il y a toujours quelqu'un qui vous en veut quelque part. Et donc, la surveillance, eh bien, il faut que nous soyons surveillés. en permanence. Surveiller aussi de nous-mêmes, hein, surveiller de l'autre, surveiller de nous-mêmes. Tout ça, en tout cas, ce qui est certain, mais très très certain, c'est que c'est un business formidable. Le business de la peur rapporte gros. Le marché de la sécurité se porte comme un charme. 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France contre 9 milliards il y a seulement 10 ans. C'est pas mal quand même, hein. Téléphonie mobile, internet, monétique, vidéo, du matin au soir, la surveillance de nos moindres faits et gestes génère un formidable profit. C'est des choses qu'on trouve dans le livre que publie Claude-Marie Vadreau, excellent confrère journaliste, dans un livre qui s'appelle La Grande Surveillance. Avec lui, nous allons dans le métro.
Quel est finalement le but premier de tous ces systèmes de surveillance ? C'est de nous protéger des autres, de nous-mêmes, aussi, voire surtout peut-être de nos peurs, de nos fantasmes. Quel est le but premier de ces...
C'est de nous mettre en état de surveillance perpétuelle. C'est aussi pour essayer de gommer nos fantasmes et nos peurs. C'est vrai à tel point que dans certains autobus, maintenant, on met des caméras factices. Ça rassure le chauffeur. Ça rassure les syndicats et le problème est réglé. C'est une espèce de lutte artificielle pour calmer nos angoisses, nos peurs face à un monde qui nous pose de plus en plus de problèmes, qui nous agresse. C'est aussi un moyen politique de formater la population. C'est aussi un moyen de nous faire croire que nous sommes tous potentiellement coupables de quelque chose, même si nous ne le savons pas encore. Et finalement, si Staline avait disposé du fichage actuel, lui et ses successeurs seraient encore au pouvoir. Si Hitler avait disposé de ce système, il aurait pu conserver le pouvoir. C'est un fantastique outil pour les dictateurs. Alors, nous ne sommes pas actuellement en dictature, mais un accident est toujours possible. C'est ça qui me fait peur, c'est que les traces réduisent considérablement nos libertés et qu'elles nous mettent entre les mains des pouvoirs, quels qu'ils soient.
It's time to get up. The time is 7 o'clock. It's time to get up. The time is 7 o'clock.
J'arrive dans le métro, devant moi, première chose, une caméra, c'est la journée qui commence.
On est où exactement ?
Alors là, vous êtes ici au PC de police, du poste de commandement entre nous et les réseaux de transporteurs, la RATP d'une part, la SNCF d'autre part.
Non, négatif, hein, sans suite. De rien, bye. J'ai eu Z1 pour la fermeture de la station Cité à midi. Donc en face, c'est bon, ils sont au courant pour la fermeture. Hein, et ils nous contacteront sur les ondes pour donner une fermeture effective à midi de la station Cité à retransmettre à Z1. Pour la manif qui est au-dessus.
Il y a une manif qui se prépare ?
Oui, sur la station Hôtel de Ville. Ils ont demandé une fermeture de la station Cité en cas d'événement. C'est par mesure de sécurité.
Et du coup, les caméras, vous allez les observer sur les stations alentours ?
Oui, voilà. Comme le service Marcadet est terminé, maintenant je vais voir pour avoir des caméras sur la station Cité en sécurisation.
Et en cas, par exemple, de manifestation, qu'est-ce que vous allez regarder ?
Une éventuelle arrivée de manifestants, s'ils ont des banderoles et selon la physionomie, à savoir si c'est bon enfant ou s'ils sont éventuellement plus agressifs, pour pouvoir aviser les secteurs qui sont en surface, et notamment les cordons de CRS et gendarmes mobiles qui connaissent la physionomie.
On a aujourd'hui dans le réseau ferré, dans l'ensemble du réseau ferré, côté RATP, environ 5200 caméras au jour d'aujourd'hui installées, et côté SNCF, 3000 caméras. Donc c'est un parc de plus de 8000 caméras qui couvre le réseau ferré d'Île-de-France. J'ai parlé de ces caméras, on pourrait rajouter à ces caméras les 17000 caméras qui sont dans les réseaux de bus.
Donc c'est 8000 plus 17000, 25000.
Si on ajoute effectivement le réseau bus, hein, voilà.
Question, est-ce qu'il y a suffisamment maintenant de caméras, enfin le réseau est suffisamment bien équipé, ou il en faudrait plus, il y en a trop?
Je dirais qu'il n'y en a jamais trop pour nous. Encore une fois, notre souhait serait qu'on ait davantage de stations couvertes, davantage de lieux à l'intérieur de certaines stations qui soient couverts également. Donc il n'y en a jamais trop. Alors je pense qu'à un moment donné, il faudra faire des choix, hein, choix financiers, choix stratégiques, hein, pour dire bon, on arrête le développement du parc, on estime qu'il est suffisamment important. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une marge de progression, et les transporteurs eux-mêmes en sont conscients, puisqu'ils développent, encore une fois, ils étendent encore aujourd'hui leur réseau, et pour notre plus grande satisfaction.
Claude-Marie Vadron, on est à la station Strasbourg-Saint-Denis, dans le métro, à côté d'une borne Navigo. On se tourne légèrement, il y a une première caméra qui est là sur notre droite, une deuxième caméra qui est juste là sur notre gauche. Le système de caméras de vidéosurveillance s'élargit de plus en plus dans le réseau RATP, SNCF, en Ile-de-France.
Bien sûr, et le président de la République, et aussi d'ailleurs, je l'ai vu dans son programme, Bertrand Delanoë, nous promet d'en avoir quelques milliers de plus en région parisienne, à Paris, à la fois sur les transports en commun et dans les rues. Alors, cela dit, je regarde ces deux caméras là de Strasbourg-Saint-Denis, et comme je ne vois pas la petite lumière rouge, j'ai l'impression qu'elles ne fonctionnent pas. C'est souvent le cas, hein, elles sont autant là pour rassurer les gens qui travaillent à la RATP que pour repérer d'éventuels délinquants, puisque de toute façon, il est prouvé que ça n'a aucune influence sur la délinquance.
Alors on est à la station Strasbourg-Saint-Denis, c'est la station, une des stations qui a été analysée et qui fait partie d'un rapport qui a été commandé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui a été réalisé en 2004. Quelles sont les conclusions de ce rapport ?
Les conclusions de ce rapport, ils sont comme toutes les conclusions des rapports de ce genre, aucune influence sur la délinquance. Il n'y a pas baisse de la délinquance après la mise en fonction des caméras de vidéosurveillance. Ça n'a strictement rien à voir, parce que tout le monde les ignore, et que les délinquants éventuels, si quelqu'un veut piquer le sac que je porte, il ne va pas se préoccuper de savoir s'il y a une caméra ou pas dans le couloir. Il va prendre le sac tout simplement parce que comment pourra-t-on l'identifier ensuite ?
Et la Grande-Bretagne fait office de laboratoire ou terre promise de la vidéosurveillance, tant il y a de caméras en Grande-Bretagne.
Dans certaines villes de Grande-Bretagne, on a des caméras qui parlent et qui interpellent le passant. Alors, ce n'est pas un système automatique, mais c'est tout simplement les opérateurs qui sont derrière les écrans dans les stations de surveillance qui peuvent interpeller les passants. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Parce que quel est le ton ou quels sont les messages qui sont diffusés lorsque la caméra s'adresse à vous ?
C'est traverser dans les clous, ne passez pas le feu rouge, aller aider la vieille dame qui hésite au bord du trottoir, tout ce que vous pouvez imaginer des petits événements d'une rue. Le ministère de l'Intérieur de Tony Blair avait effectivement fait rédiger les admonestations transmises aux passants par des enfants. Il y avait eu un concours organisé en Grande-Bretagne sur ce sujet, et les enfants ont participé avec beaucoup de plaisir à ce concours. C'est une façon finalement d'habituer les gosses dès leur plus jeune âge à accepter la surveillance totale. C'est vraiment une façon de commencer à terroriser les gens un peu, de leur faire croire que s'il n'y a pas une espèce de grand œil qui les surveille et qui les remet dans le droit chemin, eh bien tout va mal se passer.
Est-ce qu'il y a des experts ou des logiciels qui peuvent identifier des comportements suspects ou anormaux, ou des individus repérés ou considérés comme à risque ?
Alors, il y a des logiciels qui ont été mis au point en France, à Sophia Antipolis et en Allemagne, qui prétendent repérer les comportements suspects ou violents. C'est actuellement expérimenté en Grande-Bretagne, c'est expérimenté en Allemagne et aux Pays-Bas. Je suis pas sûr que ça marche vraiment.
Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des risques d'erreur?
Le plus bel exemple d'erreur, c'est l'histoire de ce Brésilien qui a été tué par des policiers à Londres après les attentats contre les autobus, dans la mesure où depuis une salle de surveillance, on a déterminé que ce citoyen, mais là c'était pas un logiciel, c'était des êtres humains, ils ont déterminé un comportement suspect de ce Brésilien. Bah, il se trouve que lui, il n'avait pas très chaud, bien que ça soit l'été, qu'il avait un long manteau, donc il a été désigné à des policiers qui lui ont couru après et qui, comme on le sait, l'ont abattu à son arrivée dans le métro, sans aucune autre forme de procès, sans aucune sommation, sans vérification de la véracité, de la suspicion qui avait été déterminée par des gens derrière des caméras.
Alors, il y a la vidéosurveillance, il y a ces caméras, donc nous allons en avoir de plus en plus dans notre bel hexagone. Ça nous a été annoncé pour la satisfaction générale, tant le besoin de sécurité est grand. Thomas Jefferson, qui fut président des États-Unis au début du 19e siècle, de 1801 à 1809, disait ceci: si vous êtes prêt à sacrifier un peu de liberté pour vous sentir en sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Alors, caméra, mais c'est, vous savez bien, c'est pas le seul dispositif. Il y en a d'autres, par exemple, les dispositifs biométriques qui connaissent un développement formidable. En 10 ans, la demande de ces dispositifs ont été multipliés par 10. Et c'est un développement considérable. Alors avec Sylvain, on va à Morges. Morges, c'est une petite ville entre Genève et Lausanne. On va dans une école qui est équipée de ce dispositif. Mais bon, il se trouve que c'est en Suisse, mais on trouve le même genre d'appareil, de dispositif en France. Comment ça se passe avec les enfants? Quelle est l'efficacité de ce dispositif biométrique?
Vous êtes prêts, on va à l'école?
Oui.
Allez, on y va. Je continue ma journée, j'amène des enfants d'amis à l'école. Là, on arrive, qu'est-ce que c'est? C'est pas pareil?
C'est pour réserver mon repas.
De réserver ton repas? Alors c'est une grosse machine assez électronique, et puis il y a un petit carré argenté. Qu'est-ce que c'est ça?
Bah en fait on doit poser notre doigt, puis notre empreinte elle est inscrite là-dedans, puis comme c'est comme ça qu'on réserve notre repas.
Tous les enfants de l'école ils doivent réserver leur repas comme ça?
Oui.
D'accord. Bah vas-y, montre-moi comment ça se passe.
Alors j'appuie sur le menu que je veux qui est affiché ici. Par exemple j'appuie sur là je vais réserver le menu 2, et après je mets mon empreinte comme ça.
Vas-y.
Oui, puis après ça clignote vert, quand c'est bon.
Et donc, tu réserves ça avec ton empreinte digitale?
Oui.
Et donc, ton empreinte dans un fichier?
Oui.
Toi aussi?
Oui.
Mais vous avez fait une bêtise, vous avez fait un crime pour avoir votre empreinte digitale comme ça? Comment ça se fait que vous ayez votre empreinte enregistrée?
En fait, on allait au secrétariat pour s'inscrire, puis ils nous ont demandé d'enregistrer notre empreinte sur un même appareil, seulement lui capte les empreintes, en fait.
Et comment vous trouvez ce système, vous?
Ben, moi je trouve ça assez bien. J'aime bien. Moi je trouve ça cool.
Tu trouves ça cool? Oui. Et toi tu trouves ça bien, pourquoi?
Ben, je sais pas, parce qu'on peut mettre en réserve avec notre empreinte. Ouais, moi aussi, je veux y avoir vraiment de raison.
T'as quel âge?
Moi j'ai 11 ans.
Et toi?
11 ans.
Et toi?
12 ans. Bah c'est comme James Bond. Alors, quand il doit mettre le doigt ou mettre l'œil comme ça, ça le fait.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à un tourniquet, c'est ça?
Oui.
Tu peux pas passer tant que t'as pas mis ton empreinte?
Non.
Tourniquet métallique avec trois lecteurs d'empreintes. Ah, là la lumière est rouge, ça marche pas, ou quoi?
Alors quand la lumière rouge, ça veut dire que l'empreinte ne passe pas. Il suffit qu'ils bougent un peu leurs doigts ou qu'ils ont une petite blessure et puis ça ne passe pas.
Et là, il y a un petit qui vient de passer. Vous m'avez dit, quand ils sont petits, des fois, ça marche pas, les empreintes sont...
Il y a certains enfants qui ont des empreintes qui ne passent pas ou qui n'ont pratiquement pas d'empreintes et ça ne fonctionne pas. Mais on en a très peu.
Parce que les plus jeunes, avec ce principe biométrique, ils ont quel âge ?
10 ans.
Et vous, madame, je vois que vous avez une liste avec les noms. Donc, il y a un double contrôle. Il y a le contrôle par les empreintes.
Tout à fait. Il y a un contrôle qui se passe pour le cas où un enfant n'a pas l'empreinte qui passe. Moi, je dois déclaffer avec une clé et obligatoirement marquer son nom, sinon on ne saura pas de qui il s'agit.
Donc, en fait, si je comprends bien, il y a d'un côté le système biométrique avec empreinte qui n'est pas totalement sûr. Et donc, il y a quand même un contrôle.
Qui ne soit pas sûr, c'est une question d'empreinte des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas d'empreinte ou que leur empreinte ne fonctionne pas parce qu'ils ont les doigts trop petits. Donc, c'est pas du tout une question de lecture.
Tu prends pas de salade, toi ?
Non, je prends pas. J'ai pas envie.
C'est pas obligatoire de manger un peu de salade ?
Non. Je vais manger une saucisse avec des pommes de terre.
Et toi, tu prends de la salade ?
Non.
Toi non plus. Tu vas manger quoi ?
Une saucisse et des pommes de terre aussi.
Et toi, tu vas manger quoi ?
Une saucisse avec des pommes de terre.
Et c'est donc toujours toi qui choisis ton menu ?
Ouais.
Toi aussi ?
Oui.
Y a personne qui dit quoi manger en fait ?
Non.
Toi non plus, y a personne qui dit quoi manger, tu manges ce que tu veux ?
Oui, je mange ce que je veux, oui.
Toi aussi, tu manges ce que tu veux ?
Ouais.
Ça marche pas ?
Non, ça marche pas.
Plus bas, enlève-le, mais le plus bas.
Ça marche toujours pas ?
Non. Laisse. Il l'a déjà mis avant. Non, laisse Bastien. Il fait rien. Maud, remets-le encore une fois. Ça a passé l'autre jour. Non, je te dis, merci. Vas-y, Jennifer. Voilà, c'est bon. Bon appétit.
Merci.
Alors, madame Corbin, vous êtes chef de l'administration des écoles. On est à la cantine. Monsieur Voru, vous êtes le maire de Morges. Qu'est-ce qui était finalement décisif pour adopter ce système par reconnaissance biométrique ? Pourquoi ce système par reconnaissance biométrique ?
Simplement parce que la simplification, c'était une nouvelle forme de cantine scolaire et surtout le fait que les enfants aient, doivent donner son empreinte digitale, on peut dire, facilitait aussi le travail du secrétariat et avait une sécurité pour les enfants eux-mêmes, du fait qu'ils n'avaient pas besoin de prendre l'argent avec eux. On sait quand même que là, on peut partout les racket entre enfants et là-dessus, on a voulu, au point de vue sécurité, sécuriser les enfants sur cette question-là.
Il y avait beaucoup de rackets ?
Non, il n'y a pas beaucoup de rackets, mais ça existe. Ça peut inciter d'autres à le faire, ça. Hein, le fait qu'autrement, ça joue, ben, avec ce système-là, ben là, ce danger est éliminé.
On voulait vraiment un restaurant sans argent et vraiment que ce soit un restaurant scolaire. On trouvait même que cantine, c'était péjoratif. Ce soit un endroit où ils se sentent bien, où il n'y ait pas de possibilité d'acheter autre chose que le menu. Et c'est aussi pour cette raison qu'on sert aussi que de l'eau. Hein, c'était pour des raisons de santé.
Et si des parents ou des enfants ne voulaient pas réserver leur repas ou payer leur repas par empreinte digitale, c'est possible, vous l'acceptez ou c'est la condition un peu sine qua non pour participer et pour pouvoir manger ici à la cantine ?
C'est certainement la condition sine qua non, mais nous n'avons pas eu de demande de la part de parents qui voulaient payer autrement. Parce que les enfants ont aussi la possibilité d'aller manger ailleurs. Hein. Il y a aussi le restaurant à côté qui sert des pizzas, des frites, toutes sortes de choses. Donc les enfants ne sont pas obligés de manger un repas complet comme ici. Hein. Certains enfants peuvent aller ailleurs. Et on a le McDonald's à la gare. Ça dépend de la responsabilité des parents.
Donc vous êtes content de ce système ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair. On va le maintenir et l'améliorer. Il y aura de nouvelles techniques, puisqu'on parle même maintenant, il suffit de mettre l'œil en appareil et puis ça enregistre.
Hein, donc, ça, vous l'envisagez ?
Si la technologie va dans ce sens-là et puis qu'il n'y ait plus des empreintes digitales, pourquoi pas, hein, pourquoi pas,
À l'époque, on n'avait pas osé. Ce système de l'iris existait, mais on n'avait vraiment pas osé parce qu'on s'est dit que là, on aurait un tollé des parents.
Alors voilà,
efficacité très très relative. Et puis le principe même rebute certains élèves, certains parents d'élèves, et qui ont fini dans certains endroits à refuser tout simplement. C'est le cas au lycée Maurice Ravel à Paris, dans le 20e arrondissement.
Juliette, Ulysse, on est devant l'entrée du lycée Maurice Ravel. Il y a une tentative, une mesure d'installation d'une borne biométrique par la direction, sauf erreur. Comment s'est passée la présentation, l'adoption de la mesure ?
En fait, moi j'étais au conseil d'administration, donc il y a eu une avalanche de chiffres, le budget habituel, donc nous on comprend rien, on était un peu endormis. Et là, d'un coup, bon, là, au passage, donc on nous dit qu'il y aura installation d'une borne biométrique. Et bon, il y a des parents d'élèves qui ont réagi et on a demandé 5 minutes pour en discuter. Donc on a un peu débattu, on a fait un vote. C'est Louis qui l'a emporté, mais les parents n'avaient pas été mis au courant, la CNIL n'était pas au courant. Et on allait commencer les mesures des mains des élèves la semaine suivante, alors qu'il y allait avoir les vacances dans une semaine et demie, quoi. Donc,
Est-ce qu'il y a eu un débat, une discussion, de l'information, soit envers les parents, envers les élèves, débat au sein du lycée ?
Non, avant en tout cas le conseil d'administration, il n'y a eu aucun débat, les parents n'étaient pas au courant, les élèves non plus. Et donc nous en fait on a essayé d'organiser un peu ce débat, mais on était complètement pris par le temps. Donc on a essayé d'organiser une AG et tout, mais les gens étaient assez peu réceptifs, à part les lycéens, pas les collégiens quoi. Enfin, donc les collégiens venaient pas, ils s'en fichaient un peu quoi.
Pourquoi ton avis ?
Bah parce que ça les amuse surtout, ça fait un peu ce film de science-fiction et... Ils se rendent pas compte, enfin, des implications, je pense qu'il y a derrière le fait d'installer une borne biométrique.
Et quand vous dites on a essayé de parler aux collégiens ou aux autres lycéens, qu'est-ce que vous leur disiez ? Quels étaient vos arguments contre la borne biométrique ?
On essayait de les mettre en garde sur le fait que, bon, en soi, une borne biométrique à la cantine, c'est rien. Mais que c'était les implications que pouvait y avoir ensuite, en fait.
Pour moi, ouais, ça implique un certain nombre de choses, notamment que installer une borne biométrique à l'entrée d'une cantine, là où il n'y en a vraiment pas besoin, c'est une sorte de banalisation de ces technologies de surveillance. On installe ça à des collégiens, ensuite, ils deviennent lycéens, ils ont l'habitude, ils continuent et ça peut se retrouver partout dans la société, presque du jour au lendemain, sans que personne ne prennent en compte ce que ça implique.
Et donc au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été accepté, refusé, adopté ?
Bah alors au final, en fait, le jour même où nous on devait avoir cette mobilisation, le matin, la directrice ou je sais plus qui de l'administration avait annoncé aux Parisiens que la machine était enlevée. Et
Donc si je comprends bien, la mesure avait d'abord dans un premier temps été adoptée, faute de débat, faute de discussion, faute d'information. Une fois que le débat, la discussion a été lancée, entre autres par les étudiants, les parents d'élèves, d'autres élèves ont pris conscience de la mesure et finalement ça a été retiré.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je pense que si personne n'avait rien dit, ça aurait été accepté comme ça l'est dans beaucoup de collèges, lycées en France. Et c'est juste le fait qu'on ait mis en évidence ce truc qui a permis de la retirer, je pense. Il y avait un truc qui m'avait beaucoup touché quand on avait fait ce mouvement. On avait demandé aux associations, etc., d'écrire des communiqués. Et il y a une association en particulier qui avait écrit un communiqué. C'est une association d'anciens déportés qui, a priori, n'a rien à voir avec cette histoire et qui avait écrit un communiqué en disant si des techniques comme ça avaient existé sous le nazisme, on y serait encore sûrement. Et même si j'ai un peu du mal avec ce parallèle souvent, ça m'avait assez frappé que des anciens déportés s'intéressent à ce sujet.
Merci à tous. C'était un reportage de Sylvain Savolainen. À lire la grande surveillance, caméra alien, portable, internet, etc. de Claude-Marie Vadreau aux éditions du Seuil. Et puis le livre d'Armand Matelard, La globalisation de la surveillance aux origines de l'ordre sécuritaire, dans la collection La Découverte Poche. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. la-ba.org. La technique aujourd'hui, Arnaud Arnstam et Antoine Viossa. C'est Koyen Guyen et Raphaël Mouter qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et c'est Agnès Lebotte qui attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.